Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'inquiétude des organisations de défense des droits humains après les dernières mesures prises par les talibans en Afghanistan, des mesures qui restreignent encore les droits des femmes. La dernière en date, l'interdiction d'embarquer dans un avion sans être accompagné d'un homme de la famille. Nous y reviendrons avec Guy Sou, Jean Giry, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains, directrice exécutive de la Fondation Armand Char. Une réunion consacrée aux chrétiens d'Orient, organisée hier à Paris, réunion à laquelle Valérie Pécresse a assisté en visioconférence. Radio Orient était sur place. Parmi les personnalités présentes, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, nous l'écouterons. Le Parlement tunisien a annoncé la tenue d'une séance plénière demain, cela malgré la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple décidée par le président tunisien en juillet dernier. Le 34e jour de l'agression russe en Ukraine, des pourparlers ont lieu depuis ce matin en face à face entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. La hausse des cas de Covid-19 en France, le président des généralistes CSMF, Luc Duquesnel, s'inquiète du regain de l'épidémie. Il estime que le gouvernement a décidé trop tôt la levée des restrictions sanitaires. Entretien dans votre édition. Les droits des femmes reculent encore en Afghanistan. Les talibans ordonnent aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. Cette nouvelle restriction imposée aux Afghanes intervient quelques jours après la décision des talibans de fermer les écoles secondaires pour filles. Je vous propose d'écouter Guy Sou, Jean Giry, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains, directrice exécutive de la Fondation Armand Char.
Ça a commencé par des petites mesures qui n'a pas peut-être attiré l'attention des médias et de l'opinion publique. Déjà, durant le processus qui les a menés jusqu'à Kaboul, c'est-à-dire la ségrégation dans l'espace public des femmes et des filles. L'école, l'université, la liberté de mouvement, de voyager, l'indépendance des femmes, l'accès au travail, etc. Donc ce que nous avons pu constater alors que c'était la rentrée des classes, c'est que finalement les talibans ne laissent pas les jeunes filles aller à l'école.
Et ces mesures vis-à-vis des femmes se multiplient. Les talibans qui ordonnent aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme, ou encore le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est son nom qui ordonne la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics de Kaboul.
Entre autres, bien sûr, dans les parcs publics, on va voir, je pense qu'on va vite arriver malheureusement à l'état dans lequel nous nous trouvions la dernière fois qu'ils avaient pris le pouvoir. On parlait même de l'apartheid sexuel, un stade où même les médecins hommes ne pouvaient pas voir une malade femme, même si elle était mourante, parce que les talibans ne le permettaient pas. Donc si vous voulez, malheureusement, ça ne nous surprend pas, ça nous choque, ça continue à nous choquer, et nous ne comprenons pas comment c'est acceptable d'avoir des interlocuteurs comme les talibans par des pays qui, en tout cas, les soutiennent, même si ce n'est pas ouvertement. Des pays de la région, les États-Unis et d'autres. Alors, la communauté internationale, les grands bailleurs de fonds, font face à un dilemme. C'est-à-dire, ils comprennent ce qui se passe, évidemment, ils le voient, ils encouragent et donnent de la visibilité aux petites manifestations ici et là des jeunes filles et des jeunes femmes courageuses qui remettent en question la perte des acquis, c'est-à-dire l'accès à l'école, l'accès à l'espace public qui a été quand même pratiqué depuis 15 ans dans l'ancien régime. Mais comment aider une population en détresse qui fait face à la famine? Comment acheminer de l'aide à l'Afghanistan et rendre acceptable cette ségrégation? Ça, c'est vraiment le dilemme, on va dire, des institutions onusiennes et autres. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est que la population est différente. C'est-à-dire que la population est beaucoup plus avertie. Les femmes et les jeunes filles considèrent que c'est absolument leur droit d'aller à l'école, par exemple. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment un drame humain inacceptable. Les femmes et les filles d'Afghanistan ont besoin d'une solidarité internationale.
Guissou Jehangiri, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains, directrice exécutive de la Fondation Armand Char. Le Parlement tunisien a annoncé la tenue d'une séance plénière demain, cela malgré la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple décidée par le président Kais Saied en juillet dernier. La tenue de cette séance a été décidée par le bureau de l'Assemblée, une instance qui regroupe la présidence du Parlement et des représentants des partis qui y siègent. La séance de demain aura pour objet d'examiner l'annulation des mesures exceptionnelles décidées par Kais Saied et celle de samedi prochain sera consacrée à la situation financière et socio-économique de la Tunisie. Des pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes ont démarré ce matin en Turquie, à Istanbul. C'est la première fois que les délégations de ces deux pays se retrouvent en face à face après plusieurs sessions de pourparlers en visioconférence. La Turquie avait accueilli le 10 mars dernier la première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Une réunion qui n'avait pas permis de parvenir à un cessez-le-feu ni de marquer d'autres avancées. L'Ukraine qui a annoncé ce mardi une reprise des évacuations de civils via trois couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol. Une reprise après une journée de suspension par crainte de provocation russe. Le pilote d'un avion militaire algérien a été tué dans le crash de son appareil. C'est arrivé hier soir lors d'un vol d'entraînement dans le nord-ouest de l'Algérie. L'avion de combat s'est écrasé en raison d'une panne technique survenue directement après son décollage de la base aérienne de la région d'Oran. Une réunion consacrée aux chrétiens d'Orient, organisée hier à Paris, réunion à laquelle Valérie Pécresse a assisté en visioconférence. Face aux représentants d'associations, elle a réaffirmé son engagement à aider les chrétiens d'Orient si elle est élue présidente de la République. Parmi les personnalités présentes, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat.
C'est le rôle historique de la France. Et ça définit notamment une part importante de notre action diplomatique au Moyen-Orient. C'est un réseau aussi d'influence de la francophonie. Et puis je crois qu'on porte ensemble cette idée de la citoyenneté. La France a beaucoup fait pour faire éclore cette idée et en même temps le principe d'universalité qui permet justement de dépasser à la fois les différentes confessions et qui permet de créer une forme d'amitié civique et de fraternité. Et je pense que les chrétiens d'Orient nous rappellent aussi quelles sont nos racines, quelle est la part importante de notre civilisation qui a vu le jour justement au Moyen-Orient.
Et Valérie Pécresse, présidente, aura le même engagement qu'à la région Île-de-France, l'engagement que vous avez vous-même au Sénat ?
J'en suis certain, d'ailleurs, elle m'a précédé dans cet engagement à l'Assemblée nationale, bien avant qu'elle soit présidente de la région de l'Île-de-France. Nous sommes allés ensemble avec Michel Barnier, c'était quelques jours avant Noël, elle a tenu à le faire, ce voyage en Arménie, mais surtout dans le Haut-Karabakh, il n'y avait rien d'évident. Et je pense qu'elle est très engagée et cet engagement, elle le préservera, elle l'amplifiera.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, il répondait à Loïc Barrière. Le nombre de contaminations au Covid-19 continue d'augmenter en France. Le nombre de patients hospitalisés augmente lui aussi. Cela alors que la plupart des restrictions ont été levées, à l'image du port du masque obligatoire dans les magasins par exemple, ou encore la suspension du pass vaccinal. Le médecin coordinateur de la vaccination en Mayenne, président des généralistes CSMF, le docteur Luc Duquesnel, s'inquiète du regain de l'épidémie de Covid. Le gouvernement a selon lui, décidé trop tôt la levée des restrictions sanitaires. Entretien avec le docteur Luc Duquesnel. Le docteur Luc Duquesnel, que je vous propose d'écouter.
On s'aperçoit depuis un peu plus de 15 jours que le nombre de personnes positives depuis 3 semaines augmente tous les jours, et je dirais de façon importante. Donc des gens vaccinés, des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui n'ont jamais fait le Covid, et qui se retrouvent symptomatiques, et quand ils se font tester, les tests reviennent positifs. Finalement, comme à chaque fois, comme à chaque vague, finalement, ça finit par avoir une incidence sur le nombre d'hospitalisations, car même si le nombre de patients en réanimation, parce que ce sont quand même assez rarement des formes graves qui nécessitent un passage en réanimation, pour autant, on a des gens, alors bien sûr les gens âgés, polypathologiques, mais pas seulement, on a aussi d'autres personnes qui finalement se retrouvent avec des états cliniques qui nécessitent une hospitalisation, d'où l'augmentation à nouveau pour cause de Covid, du nombre d'hospitalisations en France, dans toutes les régions françaises.
Vous nous dites que de nombreux patients attrapent le Covid pour la première fois. Est-ce lié au fait que, pour la première fois depuis 2 ans, les gestes barrières sont peu appliqués?
Là, on voit bien la corrélation qu'il y a entre la reprise de cette épidémie, cette cinquième vague qui n'était pas terminée, qui finalement rebondit, et l'allègement des mesures barrières, je dirais à la fin des vacances de février, aussi bien dans les écoles, mais partout ailleurs, dans les commerces, dans la rue. Voilà, il y a encore quelques lieux comme dans les gares, dans les TGV, où on est obligé de porter le masque. On a même appris, alors je crois que c'est pas en France, mais dans certains avions, on serait plus obligé de le porter, alors que on sait très bien que finalement, sur 300 personnes dans un avion, il y a des personnes qui sont positives et que globalement, c'est un endroit clos. Nous, on a plus le sentiment, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, que finalement, alors qu'avant, on était dans une gestion médicale, une gestion sanitaire de cette crise Covid, que là, on est parti, on est sur une gestion politique. D'ailleurs, on voit bien, l'an dernier, avec une dissémination, une contamination du virus beaucoup moins importante que ce qu'elle est aujourd'hui, ça faisait la une de l'actualité. Aujourd'hui, voilà, il y a la crise en Ukraine, il y a les élections présidentielles, et finalement, on parle peu, très peu, de cette vague qui actuellement rebondit.
Et qui n'est pas bénigne, c'est important de le souligner.
Ah, tout à fait, tout à fait. Là, moi, par exemple, j'étais de garde de nuit de régulation cette nuit. J'ai hospitalisé des gens. On a des enfants, des nourrissons à 41 de fièvre, qui tout ça dans des familles où le virus circule. Et d'ailleurs, ce qui est typique, avant, dans les familles, on avait éventuellement une personne positive. On s'isolait. Le nombre de personnes qui se sont isolées dans leur chambre, ils mangeaient même dans leur chambre aujourd'hui. Vous avez une personne qui est positive. On continue pratiquement la vie normale. Chaque Français pense, ou la plupart d'entre eux en tout cas, que finalement il n'y a plus de risque, on court plus de risque, et ça explique le rebondissement de cette crise, mais aussi, alors qu'on ne l'a pas eu de l'hiver, le fait qu'on est au mois de mars, on va arriver au mois d'avril avec une épidémie de grippe qui se propage aussi. Les mesures barrières, c'est pas seulement pour le Covid, les mesures barrières c'est pour tous les virus, le virus de la gastro, le virus de la grippe, et que quand on prend plus les précautions, le masque, le lavage des mains, eh bien, les virus se propagent.
Que dites-vous à certaines personnes qui peuvent vous écouter et qui peuvent déplorer un discours anxiogène? Que dites-vous à ces gens-là?
Je crois que c'est pas un discours anxiogène. On s'aperçoit que quand des gens sont contaminés, je peux vous dire que sur les dizaines d'appels que j'ai eus cette nuit par des gens qui étaient suspects Covid, qui étaient symptomatiques, l'anxiété, c'est pas de porter un masque. L'anxiété, c'est quand éventuellement on est contaminé, qu'on n'est pas bien, qu'on est malade. Et là, les gens sont très, très anxieux. Donc, globalement, c'est de continuer ces mesures barrières pour soi, pour les autres aussi, parce qu'on est en contact avec des gens âgés qui n'ont pas forcément fait leur deuxième rappel et dont la protection est quand même bien diminuée. C'est le risque, en effet, de les contaminer. Puis surtout, quand on est symptomatique, c'est se tester, parce que les cas positifs qui sont affichés tous les jours au niveau national, ce sont des gens qui sont fait tester, qui sont positifs, mais vous avez une grande partie de la population symptomatique. Et là, on voit toute la différence avec les mois précédents, à quel point on banalise cette circulation du virus, c'est qu'ils sont symptomatiques, ils ne se font plus tester. Le fait de ne pas se faire tester, de ne pas savoir qu'on est positif, ça veut dire que sur mon lieu de travail, à la maison, et tout, bien finalement, je contamine d'autres personnes puisque je ne sais pas que je suis positif.
Cela veut dire que le nombre de cas indiqués est largement inférieur à la réalité. Il y a aujourd'hui plus de 100 000 cas quotidiens, mais avec beaucoup de gens qui ne se font pas tester. C'est un chiffre sous-évalué.
Tout à fait, c'est complètement sous-évalué pour deux raisons. Donc il y a les gens qui ne se font pas tester, puis on a aussi ramené la valeur de l'autotest équivalent au test antigénique et au test RT-PCR. Or, c'est absolument pas le cas. Il est vrai que quand un autotest est positif, ça veut dire que globalement on est en effet porteur du virus. Quand l'autotest est négatif, ça n'a aucune signification. Et d'ailleurs, pour les patients qu'on voit qui sont symptomatiques et qui nous disent « j'ai fait un autotest, il est négatif », on leur prescrit un test antigénique ou un test RT-PCR et la plupart du temps, celui-là revient positif. Donc voilà, il y a une sous-estimation de la circulation du virus, une banalisation de ce qu'est cette cinquième vague qui rebondit et qui explique la propagation actuelle de ce virus.
Et conseillez-vous aux personnes à risque et peut-être aux autres également de privilégier aujourd'hui le masque FFP2, sachant que de nombreuses personnes, vous l'avez rappelé, ne portent plus le masque, notamment dans les grandes surfaces?
Si on est dans un TGV où tout le monde porte un masque, le risque est moindre. si par contre on est dans des endroits où il y a une circulation importante de personnes et on sait que dans ces personnes il y a des gens positifs, si je suis quelqu'un à risque, oui, bien sûr, à partir du moment où les gens contaminés ne portent pas de risque, pour me protéger moi, il faut mieux que j'ai un masque FFP2.
Et ces mesures, la levée des restrictions sanitaires, elles ont été réalisées trop tôt, c'est ce que vous nous dites?
C'est une évidence, et puis je dirais que là, ce qui se passe actuellement le démontre. On a voulu tous croire que finalement on en était sorti, et je crois que tel n'est pas le cas. Voilà, mais on sait très bien que ces mesures ont été prises dans un contexte politique aujourd'hui qui fait que on laisse croire en tout cas que la circulation du virus n'a plus la même importance qu'elle avait les mois derniers ou les années précédentes.
Qui est éligible aujourd'hui à la deuxième dose de rappel, en clair pour la plupart des personnes à la quatrième dose?
Alors, toutes les personnes de plus de 65 ans, 3 mois après leur premier rappel, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 65 ans qu'on a vacciné au mois de septembre l'an dernier. Donc, plus toutes les personnes fragiles, les personnes à risque, celles qu'on a vaccinées en premier l'an dernier. Et donc, toutes ces personnes-là sont éligibles à un deuxième rappel de façon à leur éviter de faire une forme grave s'ils étaient contaminés par malchance.
Pour ces personnes-là qui ont eu le Covid récemment, quel est le délai pour bénéficier de cette dose de rappel?
Même chose, trois mois après avoir fait le Covid, à partir du moment où ce sont des gens qui aujourd'hui sont éligibles, donc c'est-à-dire les gens de plus de 65 ans fragiles et les gens aussi qui ont des maladies chroniques qui les fragilisent, quel que soit l'âge.
Et pour cela, il faut prendre rendez-vous, par exemple, avec son médecin traitant, ça se passe comme ça aujourd'hui?
Médecin traitant, pharmacien, infirmière, voilà, la plupart des centres de vaccination sont aujourd'hui fermés. Mais il est vrai que par rapport à cette population éligible, on n'a pas du tout le même élan à faire ce deuxième rappel, mais ce qui peut très bien se comprendre, puisque dans la tête de tout le monde, finalement, on a banalisé le Covid, et qui fait que finalement, ça ne semble plus aussi important, je n'applique plus les mesures barrières, et de la même façon, je vais moins me faire vacciner alors qu'on m'a appelé à le faire.
Le président des généralistes CSMF, le docteur Luc Duquesnel. Les lycéens ont jusqu'à minuit ce mardi pour formuler leurs vœux d'études sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac en place depuis 2018. Ils auront ensuite jusqu'au 7 avril pour finaliser leur dossier avec les éléments demandés par les formations et confirmer les vœux soumis. Et les premiers résultats aux demandes d'inscription commenceront à arriver le 2 juin prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts, représentant les Français hors de France et soutien du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.